Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Et bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mac de l'Immo. On est ravis d'être avec vous comme chaque vendredi jusqu'à 9h. Ravis de vous accompagner avant le week-end ensemble. Voilà, je suis avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Très bien.
En ce vendredi 2 décembre.
Mais c'est formidable, décembre.
Et nous sommes avec Nadia Kateb. Bonjour Nadia.
Bonjour Bérénice, bonjour Fabrice.
Comment allez-vous, en pleine forme?
Très bien, en pleine forme. Un peu enrhumé, mais ça va s'entendre.
Oui, bon, après tout le monde est enrhumé, j'ai envie de dire.
Tout le monde, voilà,
c'est ça, c'est courant en ce moment. Vous êtes directrice commerciale pour FH Immobilier. Voilà, pendant une heure, on va vous découvrir, apprendre à vous connaître. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va revenir sur votre parcours aussi. Et puis, on va commencer avec ça, votre parcours dans l'immobilier. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes chez FH Immobilier?
Alors, ça fait 8 ans maintenant que je suis chez FH Immobilier. Ça passe très vite.
Ouais.
Ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier. Comme tout le monde, j'ai commencé une carrière dans la finance qui mène un peu par hasard à l'immobilier.
Donc dans la finance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faisiez dans la finance?
Tout ce qui est gestion de patrimoine, mais uniquement d'un point de vue financier.
D'accord. Donc tout ce qui est investissement,
tout ce qui est investissement, et puis l'immobilier est devenu un actif, et ainsi de suite. J'ai fait connaissance avec l'immobilier, la promotion immobilière. Après, je fais partie des personnes qui pensent que ces métiers ne sont pas que des métiers purement commerciaux, même si j'ai tendance à me définir comme une commerçante au sein d'FH Immobilier. Je pense que tout passe quand même par la formation et que c'est des métiers qui doivent se professionnaliser. Donc, ce qui fait qu'en rencontrant ce métier de l'immobilier, j'ai passé un diplôme qu'on appelle un diplôme de gestion de patrimoine. Vous savez que cette formation s'est créée sur le tard.
Oui.
Parce que c'est un métier qui regroupe du droit, de la finance, de l'immobilier. Et aujourd'hui encore, je continue à former les personnes, en tout cas à proposer des formations pour nos commerciaux chez FH Immobilier. Parce que je pense qu'il faut apprendre, des règles.
Oui.
Il s'agit pas que
il n'y a pas de secret, en fait.
Voilà. Il s'agit pas que de plans, de prix de vente. Il y a tout un contexte économique, tout un contexte juridique qu'il faut maîtriser.
Donc, c'est pas seulement un produit, il faut aussi que ça soit en adéquation avec votre client et adapté à sa situation.
Absolument. Et il faut qu'on soit en mesure de comprendre sa situation pour lui proposer quelque chose qui lui correspond.
Mmh. Vous avez été justement gestionnaire de patrimoine, d'abord à votre compte?
Absolument.
Et puis ensuite, dans un groupe, vous avez rejoint Nexity. C'est vrai que dans Patrimoine, et vous êtes une habituée également de Radio Patrimoine, qui fait partie du même groupe,
oui.
C'est vrai qu'il y a cette composante dans le patrimoine. Il y a l'immobilier, la bourse, les placements financiers, mais le patrimoine reste le placement préféré des Français.
Oui. Oui, c'est leur premier poste de dépense. Et puis au-delà de placements financiers, ne serait-ce que en achetant sa résidence principale, on fait déjà notre premier placement pour la retraite. Puisque ça ne sera pas un produit de rapport. En revanche, ce sera un produit qui augmentera notre pouvoir d'achat. Parce qu'à ce moment-là, il sera complètement payé.
Il n'y aura plus de loyer à payer,
voilà,
plus de crédit à rembourser.
Plus d'emprunt. Et donc, c'est déjà notre premier placement.
Donc, c'est votre recommandation
d'acheter
sa résidence principale.
Oui. Ouais, je pense que l'époque où c'est il y a 20 ans où en matière de gestion de patrimoine, on disait qu'il valait mieux être propriétaire de la résidence principale des autres, donc faire de l'investissement locatif, être locataire de la sienne.
Parce qu'on parle, il y en a qui le disent encore, hein. Il y en a qui
parle beaucoup de mobilité, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le débat actuel des retraites. Acheter sa résidence principale, c'est se dire qu'à un moment donné, j'aurai un peu plus de pouvoir d'achat parce qu'au moins j'aurai cette dépense en moins.
C'est vrai. Ah ouais, tout à fait. Justement, ce goût-là pour les choses du chiffre, finalement, parce que patrimoine, que ce soit immobilier ou avant gestionnaire de patrimoine, ça vous est venu très tôt? Vous avez hésité entre plusieurs carrières ou pour vous c'était assez évident?
Non, ça, c'est vite devenu évident. D'accord. C'est vite devenu évident parce qu'une fois de plus, il y a plusieurs disciplines dans toutes ces composantes liées à l'immobilier. Et même aujourd'hui, dans la promotion pure, où on pourrait croire que c'est que de la commercialisation, que de l'immobilier, non. Il y a quand même tous les projets qu'on prend en amont, qu'on développe, qu'on suit au fur et à mesure. Et puis, on est ravis de les voir réalisés et livrés aussi. Donc, il y a toute une chaîne de valeurs humaines qui travaillent dès le départ sur tous ces projets. Et donc, on a là quand même l'impression de participer à un projet sociétal, parce que quand on réfléchit à un programme immobilier, oui. On réfléchit pas que sur l'aspect plan de l'appartement, localisation, mais de tout ce qu'on va créer autour.
Ouais. Et puis souvent, ce que vous créez chez FH, c'est là pour 50, 100 ans, 150 ans, peut-être plus, on ne sait pas.
Voilà, peut-être plus.
Mais on a l'impression que ça se transforme. Alors, c'est dans les premières chroniques ce matin, on va vous faire réagir parce qu'on a eu une chronique sur les matériaux qui explosent. On a eu une chronique également sur ce fameux CNR, le Conseil National oui. de Refondation. On a l'impression que, je voudrais votre avis là-dessus, sur une énième grand comité, grand messe, quand on n'a plus d'idées, allez, on refait un comité. Est-ce que vous qui êtes spécialiste du secteur, est-ce que vous n'avez pas une impression de déjà-vu?
Alors, c'est une impression de déjà-vu et risque de choquer un peu. Je pense qu'on a retiré, vous savez qu'on parlait de supprimer la loi Pinel finalement oui. en 2023. Et ben moi j'étais pour.
Pourquoi ?
Parce que peut-être que ça aurait mis l'accent et on aurait pu discuter du statut de bailleur privé, on en parle beaucoup aujourd'hui, oui. et de faire une refonte globale. Mmh.
Par rapport à quoi ?
Par rapport à l'investissement locatif. Plutôt que de parler de Pinel Plus, de Pinel dégressif, j'en vois pas trop l'utilité sur les deux années qui viennent. Et donc, en l'arrêtant, ça aurait peut-être permis en 2023 d'avoir une vraie discussion sur cette refonte de l'investissement locatif, sur comment on considère le bailleur privé. Quelle que soit l'incitation fiscale qu'on lui donne, puisqu'il faut lui en donner une, puisqu'il investit pour pouvoir loger.
Bien sûr.
Donc la contrepartie, elle doit être là. Moi, il y a beaucoup de choses dont je n'entends pas parler. Ce fameux plafond des 5 500 € en Pinel, est-ce qu'on ne l'a jamais revalorisé ? Est-ce que c'est aujourd'hui encore adapté ? Je ne suis pas certaine. Je pense que là-dessus, on devrait en reparler, au moins par zonage, pour le coup, puisqu'on a décidé de créer des zonages, donc autant...
Mais est-ce que vous avez l'impression, là, au-delà de ce nouveau Conseil National, vous pourrez peut-être y participer, sait-on jamais, avec des bonnes idées, et puis surtout des gens du terrain, qu'en fait, on a déjà, finalement, les solutions. Par exemple, le zonage, ça fait longtemps que les professionnels nous disent, c'est inadapté, d'une ville à l'autre, on peut construire ou on peut pas construire, et vous le vivez au quotidien, sur le terrain?
On le vit au quotidien, je pense que tous les acteurs de la promotion sont interrogés régulièrement, et parle d'une voix au moins à peu près unique sur ces thèmes-là. Aujourd'hui, ce Conseil national, on va saluer toutes les initiatives, c'est pas la dernière, il y en avait une, je pense, avant les élections.
Il y a eu Borloo il y a 20 ans aussi.
Et puis, il y a eu Rebsamen il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Qu'est-ce qu'on en sort? On va parler effectivement de bas carbone encore, de construction vertueuse. Ça fait longtemps que dans l'immobilier, on est décarboné. Ça fait longtemps que les promoteurs travaillent dans ce sens-là.
Tous les promoteurs ?
Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus... on travaille sur les consommations d'énergie, sur des constructions bas carbone. Je pense que ça a été anticipé par la majeure...
Donc il n'y a pas besoin d'en remettre une couche, en fait.
...partie du marché. Par contre, aujourd'hui... il y a les gens en face quand on parle d'immobilier. Il y a la profession, il y a les matériaux, on peut parler de tout ça, enfin on peut le redire, toutes ces augmentations de coûts. Mais en face, il y a des acquéreurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour leur solvabilité ? Qu'est-ce qu'on fait quand des prix, les prix de matériaux, les prix de foncier, elle va être où la variable d'ajustement ? Elle ne peut plus être dans le prix de vente.
Là, c'est vrai qu'on est arrivé un peu à la limite.
Et puis les conditions d'octroi de crédit aussi qui se sont durcies, l'apport...
Les taux ont augmenté, on perd quasiment une pièce aujourd'hui quand on fait son acquisition vu l'augmentation des taux. Ce qui fait qu'on a un dernier trimestre quand même qui est assez calme.
Bon, là, les banques, certaines banques ont quasiment arrêté de prêter.
Là, hein, c'est ce mois-ci,
faut attendre janvier. Oui. Bon, on annonce que les taux vont peut-être pas trop monter en janvier, mais en tout cas, il devrait dépasser les 3%, c'est ce qu'on nous a dit hier dans 4-5 mois. Hein. C'est une étude qui est sortie hier. Oui. C'est vrai que comment vous abordez la chose pour 2023 chez Eiffage? Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies déjà par rapport à ça?
Alors, à notre niveau, on a des stratégies de construction. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut éloigner les personnes, partir en troisième couronne pour qu'ils puissent acheter. Parce qu'elle est là, la solution. Parce qu'indéniablement, il y a un prix de foncier, un coût de construction, des contraintes de plus en plus lourdes, donc qui ont un impact aussi sur le prix de vente. La solvabilité, nous, à notre niveau, depuis le temps que les matériaux ont augmenté, les promoteurs ont absorbé quand même toutes ces hausses.
Vous réduisez vos marges depuis un moment.
C'est sur les marges. Ouais. On n'a pas augmenté les prix de vente en cours de route.
Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se passer
pas, non, mais ça ne peut pas être un modèle économique qui dure. C'est impossible.
Là, vous réduisez les marges de combien en termes de pourcentage?
Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est pas la volonté non plus du groupe de réduire.
Bien sûr, j'imagine. Mais c'est vrai, mais un grand nombre de professionnels réduisent leurs marges. On est obligé, mais le truc, c'est comme vous le dites, c'est pas viable en fait. C'est pas viable comme business model.
Donc où allons-nous trouver cette variable d'ajustement? Mais ça, on va dire que ça concerne les professionnels. En revanche, en face, on a nos segments, on a les acquéreurs ou les institutionnels qui achètent. Donc si on regarde le particulier, nous, sa solvabilité, on va pas l'améliorer. C'est peut-être là qu'on a besoin des pouvoirs publics. Vous vous souvenez de l'époque où les intérêts d'emprunt en résidence principale étaient déductibles. Ça pourrait être aussi une piste pour venir compenser la hausse des taux.
Ouais.
Donc,
c'est le cas dans d'autres pays. Aux États-Unis.
Oui, c'était pendant 5 ans. Ouais. Mais c'était intéressant, c'était assez incitatif et why not?
Mais ça pose un problème plus profond, c'est-à-dire qu'on a l'impression, sur ce logement, puisque c'est ce qui nous occupe, que, hors les béquilles, finalement, de l'État, on peut pas aujourd'hui construire au prix, c'est-à-dire c'est extrêmement compliqué de se loger.
Compliqué de se loger. C'est compliqué de se loger, ça va être compliqué de conserver son logement dans l'ancien avec les rénovations énergétiques, les mêmes contraintes qui vont s'adapter aussi. Donc je pense que ce Conseil national a du travail sur la planche. Mais...
Est-ce qu'il est préventif, vous pensez? Est-ce que c'est un signal, un petit signal pour dire, avant peut-être un prochain mouvement social, parce que ça pourrait venir de là. La dernière fois, c'était effectivement sur l'essence, ça donnait lieu au gilet jaune. Sur le logement, quand les gens pourront plus se loger, c'est une dépense contrainte et c'est le premier poste. On disait tout à l'heure, au minimum 20% de ce qu'on gagne. Bon, ça c'est assez
50
logique,
pour beaucoup de Français.
On pense aux étudiants, pense aux primo-actifs. Effectivement, quand on a des petits salaires et qu'il faut se loger, et puis on parle pas que de Paris, on parle de Lyon, de Bordeaux.
On parle de ça
devient
extrêmement
cher.
Ça concerne...
C'est un vrai problème. Est-ce qu'on construit pas assez?
On ne construit pas assez. Mais ça, c'est un problème récurrent. On n'a jamais construit suffisamment pour répondre à la demande.
Ça, c'est pas nouveau France. Après, il y a ce problème de loi climat et résilience. Ça commence dès janvier. Les pires passoires thermiques qui sortent du parc locatif, ça va retirer des logements. Comment on fait aussi?
Ça va retirer des logements. Comment on fait? Et puis, nous, on va perdre quelques institutionnels qui vont avoir leurs fonds, qui vont être consacrés à la rénovation de leur parc plutôt que vers l'investissement dans le neuf, forcément.
Pour vous, cette loi climat et résilience, elle tombe au mauvais moment?
Il y a de tout. Il y a une partie de... Il y a le climat social, il y a la guerre en Ukraine, il y a tout qui tombe en même temps. Et la hausse des taux, donc ça, mis bout à bout, effectivement...
Ça fait beaucoup. Comment vous motivez vos équipes en interne dans ce climat assez compliqué?
Alors, nous, on est constructeurs, promoteurs, aménageurs. Donc, on n'a pas... un climat à proprement parler morose, parce qu'on travaille aujourd'hui sur des projets qui sortiront en 2025, 2026. Il y a toujours une dynamique quand même dans nos métiers. Donc on sait ce qu'on prépare pour l'avenir. On a quelques turbulences en ce moment sur ce dernier trimestre. Pour autant, on travaille quand même pour l'avenir. Maintenant, il va falloir traverser 2023.
Et là, qu'est-ce que vous dites à vos équipes?
Bah que tout ce qu'on a décalé, tout ce qu'on a décalé de cette fin d'année, on a beaucoup de projets qui sont prévus hein, sur l'année 2023 du coup, ça, autant que d'habitude,
d'accord.
Ce qui ne suffira pas à répondre à toute la demande. Donc, en termes de projets, on n'aura jamais, on sera pas à court. On va continuer à produire autant que ce qu'on a produit sur les dernières années qui ne suffisaient pas. Le temps devient un peu plus long, parce que les délais d'instruction sont plus longs, parce que les études sont plus longues, des projets. Si vous attendez qu'un permis soit purgé aujourd'hui, c'est 6 à 8 mois. Donc, et on est dans un temps long de construction aujourd'hui, parce qu'il faut gérer ces matériaux sur 3 à 4 ans. Donc c'est là où ça devient... un peu plus tendu pour les équipes des phages construction, mais le carnet de commandes est là. Après, on garde ce moral-là. C'est pas la première turbulence qu'on traverse dans l'immobilier. On est plutôt jeune, on le sait. Celle-ci passera aussi. C'est pas la première hausse des taux qu'on connaît. On s'est habitué à la baisse, mais on a connu les taux à 3%, à 4%. Les investisseurs y trouveront leur compte parce qu'au final, ça fera des intérêts d'emprunt déductibles. Je pense qu'il faut s'occuper de la solvabilité de nos clients maintenant.
Ouais. C'est la première. Voilà. Le premier objectif. On va écouter tout de suite un témoignage de vos collaborateurs, Jean-Marie, que nous avons eu. On va l'écouter et on revient juste après. Bonjour Jean-Marie Layus.
Bonjour.
Vous travaillez avec Nadia Kateb?
Oui, absolument. Je suis directeur commercial sud-ouest des phages immobiliers et je travaille avec Nadia depuis 2014. Car elle s'occupe de la direction commerciale nationale au niveau des partenaires.
Alors comment est Nadia dans le travail ?
Ben écoutez, Nadia, c'est quelqu'un de très professionnel, rigoureuse, qui sait dire non aussi. C'est une qualité.
C'est vrai.
Donc voilà ce que l'on peut dire sur elle.
Est-ce que vous avez une petite anecdote à raconter sur votre relation professionnelle avec elle ?
Ben, écoutez, c'est vrai que on se retrouve tous les ans sur le salon Patrimonia et que c'est toujours un moment privilégié parce que on allie professionnalisme dans le cadre du salon et on arrive toujours à avoir un moment de détente où l'aspect culinaire est important et qu'on partage avec Nadia.
Ça marche. Et puis bah, Nadia est en studio avec nous, elle vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer ?
Oui, et bah, écoute, bonjour Nadia. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment te remercier pour toute la collaboration que l'on a depuis des années. J'apprécie énormément ton professionnalisme et aussi la joie de vivre que tu as et que tu transmets aux autres.
La joie de vivre, c'est vrai que ça vous définit bien. Une petite réaction à ce témoignage ?
Ah oui, bah Jean-Marie s'occupe d'une grosse région chez nous, qui est la région sud-ouest. Il est basé à Bordeaux, donc on se voit quand même régulièrement, mais quand on se retrouve comme ça, bon, comme tout le monde à Lyon, c'est vrai que on partage quand même de bonnes tables ensemble.
En plus, bah, c'est vrai qu'à Lyon, il y a de très bonnes tables.
Vous connaissez ça, Vérénice ?
Ah oui, je suis lyonnaise. Alors,
lyonnaise.
Et vous y étiez, à Patrimonia aussi, Fabrice ?
Oui. On y était, surtout que cette année, encore une fois, avec la double casquette Radio Patrimoine, Radio Immo, il y avait le salon Patrimonia, effectivement, des gestionnaires de patrimoine et de la gestion d'actifs. Et puis, il y avait le salon de l'immobilier USH sur le logement social. Donc, c'était une belle semaine encore pour Radio Immo, Radio Patrimoine. Et effectivement, on voit que les deux problématiques finalement sont liées, puisqu'on ne peut pas faire abstraction dès qu'on parle logement, et ben effectivement du pouvoir d'achat, des envies d'investissement, puisque au-delà, quand on parle immobilier, on parle quand même de la trajectoire aussi personnelle des gens, et on est vraiment dans le concret. On est dans le concret. On l'a d'ailleurs avec. Subi ou vécu avec cette crise sanitaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce boom hein, une fois qu'on a passé le cap, mais on sent que c'est maintenant, une fois passé le quoi qu'il en coûte, où il y avait les bouées de secours, que la situation va commencer à se tendre. Alors la FPI a déjà tiré la sonnette d'alarme tout au long de l'année. Pour 2023, quelles sont les perspectives, Nadia Kateb ?
C'est vrai que Pascal Boulanger a été assez dur. Enfin, ses propos, c'était assez violent hein, lors de la conférence de presse de la FPI. Il a employé des mots très durs.
Oui, parce que nos perspectives, quoi qu'il arrive, on peut produire ce qu'on veut en logement, même si c'est pas assez. Si en face il y a personne, ça n'a aucun sens.
Ouais.
Et ce qui est dramatique, c'est quand vous n'en faites pas assez, que vous ne trouvez plus personne et que vous ne répondez plus aux besoins et aux demandes.
Mais parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus d'offres, il n'y a plus de demandes. Hein.
Oui. Mmh. Et aujourd'hui, on est face à une offre avec un petit peu moins de demandes sur ce dernier trimestre, parce que je pense que tout le monde est inquiet, tout le monde se pose des questions, réfléchit les taux, l'inflation.
Attend de voir, en fait. Tout le monde
attend de voir. On n'est vraiment pas dans l'état d'esprit de penser à un long terme, de raisonner sur un temps long. Vous avez des délais de livraison quand vous faites une acquisition aujourd'hui, c'est pour il y en a pour 30 mois de travaux. Donc c'est pas demain non plus. Donc il faut avoir un minimum confiance en l'avenir pour s'engager sur un temps aussi long. Et aujourd'hui, je pense que cette confiance n'est plus là en ce moment.
Du coup, ça se traduit moins 29,3% les
ventes. C'est ça. Je pense qu'on sera à moins 30% cette année des ventes.
Ouais, c'est ce qui a été annoncé par la FPI. Vous aussi de chez
FH. Oui, parce qu'on n'est pas un très, très gros producteur. Donc nous, la variation chez nous, elle n'est pas importante par rapport à de plus grands acteurs dans le métier de la promotion. Mais ce sera moins 30%, vraisemblablement.
On a vu aussi, tout au long de l'année, des promoteurs qui s'adaptent notamment à cette nouvelle donne écologique. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a plus de projets qui sortent. Alors, bien sûr, il y a les normes, hein, RE2020, etc. Mais on voit même qu'il y a des innovations, alors non seulement architecturales, mais également dans ces consommations. Alors, heureusement, certains ont pris le pli déjà depuis quelques années. Heureusement, finalement, qu'il y avait cette RE2020, parce que là aussi, le coût de l'énergie ajoute aussi à cette inconnu dans l'équation économique.
Oui, alors la RE2020, je pense que bon an mal an, elle est maîtrisée, parce que ça fait longtemps qu'elle est préparée. C'est plus la RE2020, seuil 2025, qu'on maîtrise pas et qu'on comprend pas trop, parce qu'on sait pas encore comment la calculer. Donc on va avoir du mal à présenter des projets comme ça pour 2024. C'est là où c'est compliqué, parce que dès aujourd'hui, on travaille pour 2024. Et voilà. Donc, on ne saura pas vous dire si il est RE2020, seuil 2025 ou pas. On ne saura pas vous le dire aujourd'hui.
D'accord. Seuil 2025, ça veut dire effectivement, on explique hein, qu'il y a des nouvelles normes.
Avec des échéances.
Oui. Avec des échéances qu'il faut bien sûr comprendre et qu'il faut mettre en application,
et calculer. Comment on le fait ?
Et le problème, c'est que si ce n'est pas encore sorti très techniquement, c'est compliqué pour vous. Ça paraît presque ubuesque. C'est vrai qu'on dit, il va y avoir une norme, mais on ne la connaît pas. Pour vous, c'est quand même un peu la quadrature du cercle. Là, c'est compliqué.
Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc. Pourquoi c'est sorti ? C'est essentiellement pour le Pinel Plus, puisque il semblerait que le locataire d'un investisseur ait le droit à un logement plus vertueux qu'un propriétaire accédant. Même si quand on construit sur une norme, on construit pour tout le monde, l'immeuble est construit dans les mêmes normes, donc ça en découlera aussi. Mais aujourd'hui, RE2020, moins 10, moins 12, moins 13, on sait le faire. Seuil 2025. On ne sait pas encore le calculer.
Point d'interrogation.
Parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Donc, pour l'instant, c'est une ligne, mais...
On a parlé aussi, et c'est connexe, zéro artificialisation nette. C'est vrai que c'est ça qui est avec cette vague des maires écolos qui avaient bloqué tout projet. Alors, on a l'impression que ça se détend un petit peu. Comment ça se passe sur le terrain ?
Ça se détend. Nous, on n'a pas vraiment de maire qui bloque nos projets. N'oubliez pas qu'on est aménageur, donc on travaille vraiment en concertation avec les communes. On n'est pas dans le développement d'une petite résidence spécifique dans une ville.
Mais est-ce qu'il y avait quand même un changement quand les maires écolos se sont fait élire ? De nombreuses villes sont passées.
Lyon, Bordeaux,
tout à fait. Est-ce que vous l'avez senti, vous, concrètement ?
Bien sûr.
Comment ça s'est traduit sur le terrain ?
Un lentissement de projet, des projets qui étaient à l'étude, qui ne sont plus à l'étude. Beaucoup de choses qu'il faut retravailler. C'est plutôt une tendance à les réduire et après, Et après, c'est une histoire de chiffres aussi. Est-ce que si ça se transforme de 100 logements, ça passe à 30? Bon, et ça ne résout pas le problème du logement et c'est plus notre métier à nous.
Et là, Fabrice le disait, il y a eu des grognes au Salon des maires et des collectivités locales. Elisabeth Borne a dit qu'elle entendait les maires. Est-ce que vous attendez à des changements de ce côté-là ou pas du tout? Vous pensez que c'est juste pour dire oui, on vous entend et puis au final, on fait pas grand-chose?
Moi, je pense pas qu'il y aura de changement lié à ça, c'est plus de la concertation. Après, un projet, ça se discute avec les mairies, ça se discute avec les habitants, c'est des concertations publiques. Si ça ne doit pas aboutir, ça n'aboutira pas, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, moi je suis pas certaine que ce soit tellement les maires qui bloquent. À part dans ces villes écolo, je pense qu'ils appréhendent aussi avec leurs concitoyens. On a besoin de logements, on veut des logements neufs qui consomment moins, mais on a du mal à accepter aussi la construction dans la ville.
Et oui, c'est ça. On veut bien, mais pas dans son jardin.
Voilà.
Alors où? C'est ça la question.
Donc, est-ce que c'est une solidarité collective aussi et, ouais. Et que tout le monde se dise, ben, de toute façon, j'ai rien ici, j'ai un terrain vague, est-ce que je laisse construire ou est-ce que je veux avoir ce... Voilà.
Oui,
je vais avoir des travaux pendant 3 ans, oui.
Oui, et puis non, mais c'est vrai qu'on le voit, parce que même dans les petites villes ou même les petites communes, bah, même le champ où il n'y a rien, enfin le champ, dès que c'est construit, les gens vont vous dire, ah bah c'était mieux avant,
oui.
Voilà, c'était plus joli, etc.
Ouais.
On a du mal, c'est vrai, à accepter que ça change aussi, tout simplement.
Bah oui.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que dans les petites communes, encore plus peut-être, les gens sont attachés, comme vous dites, à leur champ en face de leur maison. Nadia, on va écouter votre deuxième musique. C'est Idir, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Alors,
pourquoi cette musique? C'est Avava Inouva.
Oh oui, c'est une chanson qui est très connue maintenant, qui a eu beaucoup de reprises. C'est une chanson qui est en langue... qui est en kabyle, sont mes origines. C'est la traduction d'un conte. Hein. C'était un conte et s'adresse un portrait de la vie dans des maisons. C'est voilà, c'est une petite chanson, un conte qui a été chanté. Et
c'est vrai qu'Idir, c'est un prénom kabyle.
Absolument.
Et ben on va l'écouter tout de suite et on revient juste après.
بعد تسرق وتفسو سكور ذي ترن حجبا بلق جمورا تزفت ذكرك نيذنين ملال داك وات وخامث ما شاهو تزلن بلق جمورا تزفت ذكرك نيذنين ملال داك وات وخامث ما شاهو تزلن يا لا لا يا لا لا ملال داك وات وخام يا لا لا يا لا لا ما شاهو تزلن قاثني ما يلي غريب غاها
وكل الوحش الغابة غابة بين وبغابة بين وبغابة
وقد غول أذناكني ما يلي غريب غاها
Bon, alors Nadia, cette musique, on parlait du coup de vos origines kabyles. Du coup, kabyle d'Algérie. Hein.
Absolument.
Et vous avez travaillé en revanche au Maroc.
Oui.
À Casablanca, plus exactement.
Oui, exactement, à Casa.
Et pourquoi le Maroc? Pourquoi Casablanca?
Oh, bah, ça, c'est comme tout. C'est une rencontre, une proposition d'investissement. Et de fil en aiguille, pendant 2 ans, j'étais 15 jours au Maroc, 15 jours en France.
Génial.
Voilà. Alors, les premiers temps ont été difficiles, je connaissais personne. Hein. C'est pas évident, c'est des métiers un peu
de
solitaires
se faire un réseau,
quand même.
Ouais.
Et puis après, oui, ça a été très vite. Hein. Et aujourd'hui, j'ai gardé quelques contacts et j'ai adoré cette période.
Ouais.
J'ai adoré cette ville, elle était...
C'est beau, Casablanca.
C'était dynamique, le marché, bah, la ville a complètement changé, tout s'est construit, le marché a changé. Et il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers, donc à Casa.
Et quand vous dites investisseurs étrangers, c'est quel pays?
C'est Suisse, France, Belgique.
Donc beaucoup d'Européens?
Beaucoup d'Européens.
Ouais, qui investissent à Casablanca.
À Casa.
Ouais. Les prix, du coup, ont fortement augmenté?
Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est devenu une ville, maintenant, qui est moins accessible. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, qui a quasi doublé en 10 ans.
Ouais.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers, beaucoup de promotions. Mais oui, le marché a doublé, c'est pas mal.
Et les investisseurs, quand ils achètent à Casa, c'est quoi? C'est pour avoir un pied-à-terre? C'est pour faire de l'investissement locatif? C'est les deux?
C'est les deux. C'est du meublé, c'est un pied-à-terre. C'est de la location longue durée aussi pour des entreprises qui logent leurs salariés. Toute la côte a été construite en même temps qu'un centre commercial. Tout s'est développé assez rapidement.
Et du coup, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous en avez eu marre de faire ces allers-retours entre Casa et Paris?
Oui. Ça a duré 2 ans et demi. Après, ça devenait compliqué. Il fallait choisir. Alors, ce qui était bien, c'est que quand à un moment ça va pas en France, on investissait à l'étranger, notamment au Maroc. Et puis après, on a pas mal construit. Maintenant, ce qui se passe en promotion, ça concerne moins les investisseurs que pareil. Pour eux, c'est pour les propriétaires accédants, c'est des gens qui achètent pour y vivre. On n'est plus dans la notion d'investisseur maintenant. Au Maroc, c'est toujours par tendance. Maintenant, en Europe, on investit au Portugal. Et puis après, dans 3-4 ans, on verra quel pays on retournera. Peut-être que ce sera l'Espagne maintenant.
C'est vrai que, hors en tête, vous nous parliez du Portugal, hein, qui est très apprécié. Bon, les prix sont encore très abordables. On en parlait
hors
antenne. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques semaines. J'étais à Lisbonne et on parlait de Lisbonne. C'est vrai que c'est magnifique. C'est pas cher.
Il
y a quoi comme ville au Portugal, du coup, qui est très appréciée par les investisseurs?
C'est le sud. Ouais, c'est le sud. Et puis aujourd'hui, la catégorie d'investisseurs, c'est plus... Les retraités qui cherchent une qualité de vie et une météo un peu plus clémente.
Le soleil, c'est vrai que le, voilà. La vie, et puis même fiscalement aussi, c'est plus sûr. Intéressant. Bah oui, c'est vrai, on est aussi dans la gestion de patrimoine un petit peu, donc du coup, c'est vrai ça paraît intéressant. Il y a d'ailleurs une compétition comme ça en Europe, dans des pays qui ont des incentives comme ça pour les retraités. Ça peut être à regarder.
Il y a la Grèce aussi qui est en compétition. On a fait une émission justement sur ces pays-là qui permettent de faire des beaux investissements et de défiscaliser. C'est vrai que la Grèce est pas mal.
C'est déjà un peu plus loin.
Ouais, c'est un peu plus loin. C'est vrai que pour y aller, Mais bon, ça reste accessible. On va écouter un témoignage, celui de Franck. Franck qui est devenu un ami.
Ouais,
c'est
exactement.
Ça, vous travailliez avec lui avant, chez Eiffage.
Franck a un cabinet de gestion de patrimoine. Il est dans le 17e. Il travaille un peu avec tous les promoteurs, mais c'est comme ça, c'est des rencontres. Encore une fois, une rencontre exceptionnelle. Il y en a qui deviennent des amis. On s'entend avec tout le monde. Ou d'autres, ce n'est que des relations professionnelles. Et c'est vrai qu'avec Franck, on est devenus amis. Il nous arrive même de faire quelques voyages ensemble. Là, pour le coup, avec Franck, c'est plutôt Agadir en hiver pour aller chercher quelques degrés.
Belle station balnéaire aussi. Hein. Et justement, là, quand vous dites certaines relations professionnelles deviennent des amis, vous le savez tout de suite, ça? Ou c'est avec le temps, il faut que les personnes fassent leurs preuves? Ou est-ce que...
Non, je crois que... Je crois qu'on sent dès le départ avec qui on va accrocher tout de suite ou pas, et d'autres avec qui ça va rester purement professionnel. Mais Franck, c'est un garçon qui est très attachant, qui est vraiment sympathique. Et
tout de suite, vous vous êtes dit, lui, ça va devenir mon ami.
Pas la première fois au téléphone. J'avais dû l'appeler pour le disputer. C'est courant.
Comme quoi ?
C'est courant, chez moi.
Voilà. C'est vrai. On va écouter son témoignage tout de suite. Franck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ami de Nadia.
Oui, ami et partenaire, exactement. Nous travaillons ensemble et on a lié des moments d'amitié forts ensemble. Voilà.
Et depuis quand vous vous connaissez ?
Alors, depuis de longues années, on a commencé par le côté professionnel. C'est-à-dire que Nadia est difficile d'accès. Et j'ai eu la chance de pouvoir la joindre. J'avais une problématique sur un programme immobilier et j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Elle m'a prise, mais au début, elle était un peu circonspecte et elle était en attente d'éléments sur mon travail. Je lui ai prouvé rapidement que j'étais capable de répondre aux attentes et de pouvoir apporter du chiffre d'affaires. Et très vite, j'ai aimé son côté professionnel, sa disponibilité et puis surtout sa réactivité. Voilà. Donc, ça m'a permis de la connaître un peu mieux. Et on a lié des liens d'amitié en organisant ensemble des déjeuners, des dîners. Et une année, je l'ai invitée à venir avec nous en séminaire aux Antilles, et elle a accepté bien volontiers, et on a passé d'excellents moments ensemble, et là, ça a vraiment lié notre relation d'aujourd'hui, voilà.
Alors, Nadia est en studio, elle vous écoute, si vous avez un message à lui faire passer.
Alors, Nadia, je suis fier, et pour moi, c'est important d'avoir cette relation privilégiée avec toi. Et simplement, je sais que c'est très très exceptionnel parce que beaucoup de mes des partenaires avec lesquels tu travailles me disent mais comment tu fais pour la voir? Elle accepte pas de travailler avec nous. Donc je sais que t'es très sélective. Et donc pour moi c'est un avantage complémentaire de pouvoir avoir cette relation privilégiée avec toi. Voilà.
Vous êtes très sélective.
Je suis sélective et comme j'explique à beaucoup de personnes qui pensent que je suis dure, alors je dois l'être un peu certainement, mais on en revient à ce que je disais au départ. Je pense que il faut vraiment que tout le monde se professionnalise.
Vous aimez la rigueur, vous aimez. On a l'impression que vous êtes exigeante avec vous-même, du coup
voilà,
vous l'êtes avec les autres.
Voilà, et je pense qu'il faut respecter, son client, il faut respecter le promoteur, il faut respecter tous ceux qui vont travailler autour. Et effectivement, je n'aime pas. Je ne travaille pas avec les personnes qui font mal les choses et qui pensent que. Qui regardent l'immobilier que sur un aspect commercial et rémunérateur.
Qui sont attirés par l'appât du gain.
Par les commissions, uniquement les commissions, parce que c'est plus intéressant que la finance ou autre. En tous les cas, je leur dis qu'il faut travailler sérieusement. Et après, oui.
Et ça, il y en a beaucoup, des personnes.
Il en reste encore qui sont. En tout cas. Qui travaillent sur les lignages, qui utilisent les perspectives des promoteurs. C'est pas un travail. C'est pas sérieux.
Oui.
Un partenaire, c'est une valeur ajoutée, c'est une clientèle, et pourtant on n'est pas fermé, parce que je suis peut-être sélective, mais on fait un peu plus de 50% de nos ventes via nos partenaires. Donc c'est quand même, c'est que c'est pas fermé. Pour autant, il faut les faire bien, sinon ça fait encore une fois travailler toute une chaîne de valeur humaine pour rien. Et vous avez un client en face, qui sera mécontent.
Après, c'est vrai que là, la période qui arrive va peut-être remettre un peu les choses en place aussi. Les meilleurs vont.
Ben oui, voilà. On peut pas travailler de cette manière. C'est pas sérieux. C'est pas beaucoup de gens maintenant commencent à travailler beaucoup au téléphone. Moi, je maintiens que la vente c'est de l'empathie. Si les personnes se voient pas, c'est compliqué.
On a pris aussi l'habitude, peut-être pendant la crise sanitaire, ça a accéléré un peu les choses. Et après, on peut faire aussi des affaires par téléphone.
Oui.
Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce que vous reprochez quand vous dites pas sérieux? Parce que on explique en fait le contexte. Hein. C'est vrai que quand on a une belle marque comme ça, comme FH Immobilier, on sait que les projets vont sortir, qu'ils vont être de très bonne qualité. C'est même un privilège de pouvoir, surtout dans une pénurie de biens, de pouvoir proposer ça à ses clients. Et pourtant, il y en a qui, finalement, ne respectent pas toute cette
chaîne
de valeur.
Parce qu'ils ne proposent pas ça à leurs clients. Ils publient sur les mêmes lignages que les promoteurs.
D'accord.
Ça devient une concurrence directement à la promotion immobilière. On a aussi une force de vente interne qui doit vivre et qui doit travailler. Et c'est nos investissements. À partir du moment où vous venez chercher de la même façon, c'est là où vous n'avez plus de clients. C'est là où vous n'avez plus le métier de conseil. Et c'est là-dessus que moi j'interdis toutes ces publications et je trouve pas que ce soit une méthode sérieuse aujourd'hui, parce que ça veut dire que réellement on ne fait que ça. Ils n'ont plus leur propre clientèle globale.
D'accord.
Et l'immobilier n'est plus l'actif parmi d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est beaucoup les partenaires bancaires et les vrais gestionnaires de patrimoine qui ont une valeur ajoutée et une clientèle différentielle que celle qui vient nous voir sur les bureaux de vente.
Bien sûr.
En tout cas, on vous sent vraiment rigoureuse, on vous sent passionnée.
Oui.
Vous avez l'impression d'être un peu de la vieille école. Quand je dis ça, c'est que on dit souvent que
c'est
les jeunes.
L'âge.
Non, parce que je le suis aussi. Hein. Mais c'est vrai que on a l'impression que ce que vous disiez, hein, que les gens ne font pas, que c'est un peu les nouvelles générations. C'est ce qu'on entend aussi sur notre plateau, hein, que les nouvelles générations, veulent faire de l'argent facilement parce que on a l'impression sur les réseaux sociaux peut-être que c'est facile, qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler. Est-ce que vous trouvez ça aussi que ça devient un problème, en fait?
Oui, ça devient un problème et c'est pour ça que je leur dis ce que je vais exiger de leur part, je me l'exige à moi-même, déjà, pour commencer. Et ils ont le droit d'en exiger autant de ma part, de rigueur et de sérieux. Mais oui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, avec... tout ce qu'on entend dans les rémunérations, on en parlait hier avec la grève des médecins.
Ouais.
Quand on regarde le prix de la consultation et le prix...
C'était les médecins généralistes qui ont fait grève hier.
Oui, les médecins généralistes, oui, bien sûr. Leur consultation et le prix d'un brushing chez le coiffeur, oui, on est sur le même niveau de valeur. C'est pareil pour nous. On voit, tous ces jeunes voient... tous ces réseaux entendent parler de revenus et pensent que c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On parlait des prix de l'immobilier. Il est évident qu'avec toutes ces contraintes, tous ces prix, il y a une donnée qui change et qui nous sert de variable d'ajustement aussi, ce sont les honoraires.
Oui.
Les honoraires ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Parce que c'était très valorisant, financièrement, c'était intéressant quand même de vendre de l'immobilier dans le neuf. Aujourd'hui, on est sur des taux qui sont divisés par 3, quasiment. Et ça fait un peu moins, mais il faut raisonner en valeur faciale, les prix ne sont pas les mêmes.
Bah, bien sûr.
Donc je pense que les financièrement, ils sont pas loin.
On s'y retrouve.
De ce qu'ils gagnaient il y a 10 ans, mais ils résonnent en taux. Donc nous, on n'aura pas, voilà, on n'est pas dans des rémunérations où les gens ne vont vivre que de l'aspect immobilier.
Il faut travailler, il faut se lever tôt le matin comme vous et être passionnée et rigoureuse.
Oui, il faut être rigoureux, c'est le seul moyen de perdurer. Sinon, c'est comme Sisyphe, on recommence tous les mois la même méthodologie et on construit rien. Et ils recommencent à rechercher une nouvelle clientèle et ils conservent rien. Ils n'ont pas de portefeuille, ils n'ont pas de récurrents et ça s'en ressent dans la qualité de leur dossier d'ailleurs.
Oui, et puis ça, du coup, ça écrème aussi vite. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui repartent.
Oui.
Voilà, qui sont attirés un petit peu par. C'est vrai que c'est les paillettes, entre guillemets, ou qui sont là pour faire des opérations à un coup. On le voit aussi beaucoup dans l'immobilier d'une manière générale. Hein. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'agents, de nouveaux métiers qui se créent et aussi certains qui donnent peut-être les outils pour faire ça, pour faire penser que c'est rapide et c'est facile.
Bah, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que les vrais réseaux, que ce soit dans les agences immobilières, crée aujourd'hui des écoles de formation, un système de formation.
Oui, en parce interne.
En interne, moi, je crois véritablement...
Ça, vous êtes pour ça?
Oui, on a une université chez Eiffage Immobilier, l'université Eiffage aussi, où il y a un système de formation interne et avec des externes, adapté à tous les métiers. Hein, vous savez que le groupe, c'est pas que la promotion immobilière. Mais oui, moi, je crois à ça. Je pense que... les gens doivent se tenir informés et être sérieux. Pour vous donner un exemple, on l'a vu récemment, vous savez qu'on a parlé de l'amendement qui a été déposé au Sénat pour le Pinel. Si vous regardez sur Internet, c'est annoncé comme acquis par bon nombre de confrères, de cabinets. Oui, non, mais c'est en discussion, évidemment. Mais vous recevez aujourd'hui des mailings où on vous dit bonne nouvelle, c'est prolongé. Enfin... Ouais. Voilà, qu'on accepte au Sénat de prendre l'amendement, c'est une chose. Mais c'est là, voilà, ça fait partie des choses. Et aujourd'hui, vous vous amuserez à regarder, et pas par des petits cabinets, où c'est dans leur site et c'est considéré comme acquis. Ça devient dangereux.
Oui, il y a un problème d'information, de circulation de l'information,
et de compréhension de l'information.
Et de compréhension. On va écouter peut-être le dernier témoignage. C'est une de vos amies. On l'écoute et on revient juste après. Oriane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une amie de Nadia ?
Exactement, amie depuis 2018.
Depuis 2018, comment vous êtes-vous rencontrés ?
Nous sommes rencontrés par des amis communs lors de soirées communes. On est devenus tout de suite amis parce que Nadia est solaire et charismatique.
Et du coup, ça a tout de suite matché entre vous ?
Tout de suite.
Comment est Nadia en amitié ?
Alors, en amitié, je dirais qu'elle est extrêmement fiable, extrêmement solidaire, qu'elle veut faire plaisir et qu'elle est très drôle.
Et est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur votre amitié ?
Alors, sur mon amitié, non, mais sur une des qualités de Nadia. Nadia est la championne des salades. Donc, elle peut vous faire des salades avec des déclinaisons incroyables, des ingrédients que seule elle aurait l'idée de mélanger, et c'est toujours super bon.
Eh ben, je vais passer commande juste après l'émission. Pour terminer, Nadia est en studio, elle vous écoute. Si vous avez un petit message à lui faire passer.
Alors moi, j'aimerais bien avoir toutes ces recettes de salade qu'elle garde secrètes. Voilà, donc il faudrait qu'elle pense à écrire un livre ou à partager avec les copines.
Alors ces salades, c'est quoi ces fameuses salades ?
C'est de tout, alors... Je suis une piètre cuisinière quand même. De temps en temps, il m'arrive de m'y mettre pour faire plaisir. J'en vante un peu de tout. Donc, alors après, j'ai un petit peu de mal à me souvenir de... voilà.
Mais vous mettez quoi dans les salades?
Ah ben là, j'en ai fait une aux choux chinois avec des graines de courge.
C'est bon, c'est génial. Du coup, c'est vrai que après les salades, c'est bien quand on aime pas ou quand on sait pas trop cuisiner, parce que c'est hyper facile à faire. Enfin, on met tout dans le saladier,
ben,
et hop
ça.
Là, une petite
c'est
sauce
ça,
qui va
voilà.
Bien.
Donc et, j'ai un peu de mal à dire que je cuisine quand je fais des salades, mais bon, parce qu'il y a pas vraiment de cuisson.
Vous aimez bien recevoir des
oui,
amis?
Oui, ouais. Oui, bien ouais. Sûr. Ouais.
C'est quelque chose que vous faites souvent.
Ah oui, dès qu'on peut, mais oui, j'aime bien. Ça va être le seul moment où je vais utiliser ma cuisine témoin. Hein, c'est.
Sinon, ah bon. C'est vrai que vous.
Sinon, je n'y vais pas.
Vous cuisinez pas, non.
Non.
Non, non. Vous faites non, quoi non. Vous, comment vous faites livrer vous,
Oui, et puis je mange souvent dehors, on finit tard. Les journées sont longues, mais c'est bien de se faire un petit arrêt quand même.
Il faut.
Voilà, avec des amis pour manger un morceau, boire un verre sans que ce soit trop tard. Mmh. Mais au moins, on ne rentre pas directement après des journées complètes.
Oui, donc vous coupez avant de rentrer.
Ouais.
Vous allez manger dîner un petit bout.
Exactement, il n'y a que le week-end que vous ne me verrez pas dehors.
Le week-end, vous restez chez vous?
Oui.
Ouais. Vous avez besoin de ça pour vous
ouais.
Ressourcer
ouais,
Vous faites quoi le week-end? Vous lisez beaucoup, vous aimez lire?
Ah oui, moi j'aime lire. J'aime bien être tranquille et lire.
Qu'est-ce que vous lisez, Nadia Katsem?
Oh, je lis de tout. Je lis de tout.
Plutôt des romans, plutôt des ouvrages.
Là, vous lisez
alors,
quoi
pas des
en ce
essais,
moment.
Pas des essais, ouais. Parce que ça m'intéresse pas la vie des gens. Voilà.
D'accord. Les mémoires politiques des uns ou des autres.
Non, je non. Non, non, non. Non, je peux lire un polar.
Ouais.
Quand je suis en vacances, je peux lire. En ce moment, je lis un livre sur la place des femmes dans le monde et dans la société. Voilà, c'est une réflexion qui m'est venue parce que je lisais un rapport où je voyais que quand même, il y avait des pays où on se doute pas, où les femmes sont avancées, et du coup, j'ai décidé de m'instruire là-dessus.
Quels sont les pays, par exemple? Quel pays?
Eh ben, on va parler un peu de l'Iran, même si ouais, ils souffrent maintenant, mais sur le droit au travail, sur les salaires, ils sont plus avancés que les pays européens.
En Iran,
voilà,
avec
même s'ils doivent se voiler ouais. Et pas écouter de rock.
Ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs, faut quand même rappeler que les femmes en Iran en ce moment sont vraiment très courageuses. Hein.
Ouais.
Faut penser à elles aussi. C'est vrai que on le voit dans l'actualité.
On le voit. Je trouve qu'on pense pas suffisamment à elles. Ça ouais. Fait pas trop. Mais oui, elles sont très courageuses.
Ouais. Là, c'est même plus que du courage. Hein. Elles risquent leur vie. C'est des combats d'une vie. Hein. Les voir comme ça.
Ouais.
Aussi téméraire, c'est incroyable en tout cas.
Il devrait trouver des solutions pour les soutenir, autre que se couper une mèche de cheveux.
Oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai que ça a fait polémique, ça. C'est bon. Après, chacun essaye de faire.
On est capable de soutenir des pays comme l'Ukraine. Et je sais que le peuple en a besoin, mais je pense que même l'Iran, voilà, à défaut de trouver des sanctions qui vont contre le pays, qui vont encore plus les enfermer, ces femmes, parce qu'au final, tout va retomber si on les sanctionne trop le pays.
Bah, c'est elles les premières victimes.
Voilà, on va les cloîtrer et donc c'est les seules solutions qu'on a trouvées avec ces pays-là, c'est de sanctionner et donc d'enfermer les gens dans le même problème.
Nadia, une autre de vos passions, c'est les voyages. On parlait du Portugal tout à l'heure, que vous avez beaucoup apprécié. Quel autre pays vous a marqué?
Alors, comme j'arrive pas à prendre beaucoup de vacances, sachez que tous les deux mois, je prends 3 jours pour faire des city breaks. Parce que je sais pas prendre 3 semaines de vacances.
Vous faites jamais?
Vous avez déjà essayé?
3 semaines?
Oui.
Non, j'ai peur de pas revenir.
C'est ça.
J'ai jamais essayé.
Et donc, prochain city break qui est prévu?
Alors j'ai fait le dernier que j'ai fait, c'était Prague, là que j'ai découvert aussi. Bon, la météo a été clémente, c'est bien. Là, j'y retournerai pas sur cette saison. Mais là, je voulais attendre que les jours s'allongent pour faire un tour du côté de la Suède. Mais de pas voir que la nuit toute la journée parce qu'en ce moment donc plutôt mars, avril.
Quand les beaux jours reviendront.
Ouais, quand les
donc la suite.
Le jour,
oui, c'est vrai qu'il
fait nuit.
Il fait nuit, ouais, c'est vrai, toute la journée.
Que j'ai pas encore fait.
D'accord. Voilà.
C'est très chouette, justement, on en parlait tout à l'heure. Il faudra aller voir justement ces marchés, marchés de Stockholm en particulier.
Ouais. C'est
puis
vrai.
Après, le pays est immense, mais Stockholm, déjà, c'est une belle étape.
Le pays est immense, oui.
Hélas, l'émission touche à sa fin. On va se quitter en musique avec votre dernier choix musical, Nadia. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça, c'est une chanson que jouait, bon, que tout le monde connaît, hein, mais quand on me demandait des chansons qui me marquaient, parce que sinon c'est difficile, il faut choisir. Et celle-ci, c'était celle que Charles, qui était mon associé dans le cabinet de gestion de patrimoine, qui est décédé aujourd'hui, jouait avec son groupe.
Voilà. Proud Mary.
Yes.
De Creedence Clearwater Revival.
Voilà.
En tout cas, on va se quitter là-dessus et c'était un plaisir de vous avoir, Nadia Kateb.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé par le studio de Radio Emo. On remercie David Payan à la technique. Merci Bérénice. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec Stéphane Fritz de Guy Hockey.
Oui, m'a demandé d'ailleurs, il faut lui dire coucou toi à Stéphane, parce que je lui ai dit que je l'annonçais pour la semaine prochaine.
Et voilà, Stéphane, on t'attend. Sois présent et à l'heure. On t'embrasse, Stéphane. À très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
De l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Promis et Bien Ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.